Décryptage. Stéphane Genest.
C'est une guerre qui dure depuis maintenant plus d'un an, guerre sur laquelle les projecteurs sont rarement braqués. Au Soudan, où les combats entre les forces régulières de l'armée et les troupes du général Hemeti n'ont pas cessé depuis le 15 avril 2023. Des affrontements qui ont fait des milliers de victimes, forçant 8 millions de Soudanais à quitter leur domicile pour fuir. Si aujourd'hui, c'est une guerre entre deux généraux sans vainqueur, elle a aussi une dimension internationale. Soudan, une guerre régionale qui s'internationalise, c'est votre décryptage de ce jour. Et pour nous accompagner, Thierry Vercolon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Genest.
Vous êtes coordinateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe, de l'IFRI, de l'Institut français des relations internationales et spécialiste du Soudan également. Deux belligérants, donc, dans cette guerre civile, le général Al-Burhan, à la tête des forces armées soudanaises, les SAF, les SAF, et le général Mohamed Hamdan Dogolo, dit Hemeti, qui dirige les FSR, les forces de soutien rapide, des paramilitaires, donc, des combats qui ont des conséquences régionales, Thierry Vercolon, notamment au Tchad.
Oui, tout à fait. Elles ont des conséquences régionales parce que il y a, comme vous le disiez, 8 millions de déplacés, mais il y a 1,5 million de réfugiés aussi, dont la majeure partie d'entre eux sont en Égypte, mais dont il y a aussi un gros contingent de peu près 500 000 personnes dans l'est du Tchad. Et puis après, des chiffres moins significatifs au Sud-Soudan et en Éthiopie, évidemment, qui sont des pays limitrophes. Mais en tout cas, il y a énormément de déplacés dans ce conflit et il y a des réfugiés aussi qui commencent à être trop nombreux, par exemple en Égypte, où les autorités égyptiennes essaient maintenant clairement de diminuer le flux.
Justement, Thierry Vercolon, vous revenez du Tchad. Vous avez pu constater l'arrivée de ces déplacés soudanais et leur accueil?
Oui, tout à fait. Alors, ils sont arrivés depuis l'année dernière. Oui. Hein. Ils continuent d'arriver, malheureusement. Et ça a doublé la population du Wadaï. On est maintenant à environ un demi-million de réfugiés soudanais qui sont dans l'est du Tchad. Il faut se rappeler aussi qu'il y avait déjà eu une crise humanitaire il y a 20 ans, oui. Hein, la crise du Darfour, 2003-2005, et que par conséquent, il y avait déjà des réfugiés soudanais qui étaient au Tchad. Et donc là, c'est une deuxième vague, si je puis dire, qui s'ajoute aux réfugiés qui étaient déjà là et qui n'étaient en fait jamais repartis au Darfour.
D'ailleurs, l'ONU explique que c'est la plus importante crise de déplacement de population au monde. Situation qui fait craindre donc depuis un an une déstabilisation régionale. C'est un risque qui était déjà évoqué par Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies, c'était en mai 2023, un mois après le début du conflit.
Je suis très inquiet, à commencer par le Tchad. L'épicentre de ce conflit est encore dans une certaine mesure le Darfour, indépendamment de ce qui se passe à Khartoum. Le Tchad est un pays en transition démocratique et il a été menacé, comme vous le savez, par des milices présentes en Libye. Il est absolument essentiel de soutenir le Tchad dans la situation actuelle. D'autres pays de la région sont engagés dans leur propre processus de paix. L'Éthiopie est engagée dans un processus de paix et il est essentiel d'éviter tout débordement du conflit au Soudan sur l'Éthiopie. Le Soudan du Sud est aussi engagé dans un processus lent et difficile de mise en œuvre d'un accord de paix. Tout débordement du conflit soudanais sur le Soudan du Sud serait extrêmement dangereux.
Un an plus tard, Thierry Vercolon, comment les choses ont évolué? Qu'en est-il de cette déstabilisation régionale évoquée?
Elle n'a pas eu lieu, premièrement. Et je crois que un an plus tard, le problème, c'est pas du tout cette déstabilisation régionale qu'évoquait Guterres, c'est la fragmentation en fait du Soudan lui-même et son morcellement en plusieurs éléments. Il y a actuellement une sorte de partition de fait entre une partie ouest contrôlée par le général Hemeti et puis une partie est contrôlée par le général Al-Burhan. Mais en fait, il faut bien voir que ce n'est pas simplement ces deux forces qui s'affrontent. Elles s'affrontent avec l'appui d'un certain nombre de groupes armés qui préexistaient au conflit parce que le Soudan était déjà un État fragile et qui était travaillé par des tendances centrifuges. et où on avait un certain nombre de groupes armés dans plusieurs provinces, que ce soit au Darfour, au Kordofan, etc., qui réclamaient une autonomie. L'accord de Djouba qui avait été signé en 2020 était en fait un accord de partage du pouvoir avec ces groupes armés. Il va de soi que maintenant, dans le chaos ambiant, eh bien, ils ont une liberté de manœuvre encore plus grande, si je puis dire, et qu'on peut aller vers un morcellement du Soudan et une fragmentation de ce grand pays qui fait quand même, qui est immense.
C'est le troisième pays d'Afrique sur sa superficie.
Il fait 1,8 million de kilomètres carrés, donc il est immense.
Le Soudan du Sud, également le voisin au sud du Soudan, très dépendant des exportations de pétrole qui transitent par le Soudan. Il y a aussi un risque, notamment pour ce pays, d'effondrement financier ou même d'effondrement social avec cette crise au Soudan.
Bah, ça m'étonnerait beaucoup parce que le pétrole continue à passer par le pipeline et que beaucoup ont intérêt à ce qu'il continue à passer par le pipeline. Donc je ne vois pas trop qui va s'amuser à faire des trous dans ce pipeline parce qu'il représente beaucoup d'argent et que les transit fees, comme on dit, les taxes de transit, alimentent un certain nombre de... pas seulement le gouvernement sud-soudanais, mais le gouvernement soudanais actuel, c'est-à-dire le gouvernement d'Al-Burhan.
Et en fait, Thierry Vircolon, quand on évoque la situation régionale, il faut aussi voir un petit peu plus loin. Parce que le camp du général Al-Burhan, tout comme celui du général Hemeti, reçoivent tous les deux un soutien international. Hemeti, notamment, pour prendre cet exemple, reçoit du soutien de la part des Émirats Arabes Unis. Même si Abu Dhabi dément.
Oui, alors ce qui est assez fascinant avec le conflit soudanais, c'est que les conflits assez classiques en Afrique commencent au palais présidentiel, puis se communautarisent, puis se régionalisent, puis s'internationalisent. Là, le conflit soudanais, il a fait ça très très vite, en moins d'un an. Il a fait les quatre phases. Et en effet, maintenant, c'est assez largement un conflit internationalisé. Quand on analyse les combattants, quand on analyse les armes, quand on analyse les routes d'approvisionnement, on voit qu'il y a en effet des ramifications internationales et que chaque camp a ses alliés, une sorte de coalition derrière lui. Alors en ce qui concerne l'armée soudanaise, il y a l'Égypte évidemment.
Très discret par ailleurs l'Égypte.
Très discret, mais enfin, il faut quand même se rappeler que les RSF ont, au début du conflit, immédiatement attaqué un camp qui se trouvait au nord de Khartoum et qui était un camp où l'armée de l'air égyptienne était présente. Donc ils avaient une présence militaire sur place. Elle est discrète en effet, mais elle constitue pas moins un appui pour le général Al-Burhan. Également, l'Iran a commencé à lui fournir des armes depuis qu'ils ont rétabli leurs relations diplomatiques.
Notamment des drones.
Et des drones, voilà, qui sont arrivés au début de cette année pour équiper l'armée soudanaise. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a, du côté du général Hemeti, il y a en effet le général Haftar en Libye. Il y a les Émirats Arabes Unis également. Il y a aussi le Tchad qui l'aide d'une certaine façon. Le Sud-Soudan aussi est accusé de l'aider. Donc, parce que le général Hemeti est un homme qui a des intérêts, qui a bâti un empire financier très discret et qui a des intérêts assez tentaculaires.
Vous évoquiez le Tchad. Hier, sur RFI, le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a expliqué pour autant que ce conflit était exclusivement soudano-soudanais. Ça ne regarde pas le Tchad. Voilà ce qu'il expliquait. Qu'en pensez ?
Comme je le dis, quand on analyse, il suffit d'analyser les combattants, il suffit d'analyser les armes, il suffit d'analyser les routes d'approvisionnement pour voir que c'est loin d'être un conflit soudano-soudanais. C'est en fait, comme beaucoup de conflits à l'heure actuelle, aussi un conflit très mercenarisé. Parce que les gens qui se battent au Tchad ne sont pas, contrairement à ce que dit le président tchadien, des Soudanais uniquement. On trouve des gens du Tchad, premièrement. On trouve des Syriens aussi. On trouve même, pour être plus exotique, des Ukrainiens et des Russes. Donc l'internationalisation est quand même très très poussée.
On va revenir sur les Ukrainiens et les Russes présents sur ce territoire soudanais. L'ONU, dans un rapport, indique que le Soudan du carburant transite via, par les Émirats Arabes Unis, via le Soudan du Sud, la Centrafrique, la Libye ou le Tchad, donc qui à destination du général Hemeti. Donc il y a des forces, des paranationaux, entre guillemets, internationaux.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un conflit qui a lieu au Soudan, mais qui est assez moyen-orientalisé, en quelque sorte. Ce sont des rivalités moyen-orientales qui s'exportent au Soudan. Évidemment, il y a cette guerre de succession du régime El-Béchir entre les deux généraux, mais à travers cette lutte des généraux, cette guerre des généraux, il y a aussi une guerre moyen-orientale qui s'exporte, et même, comme je le disais, le conflit russo-ukrainien qui s'exporte sur ce terrain.
C'est une quête d'influence régionale, notamment avec la situation du Soudan qui donne sur la mer Rouge, le Nil.
Oui, c'est un pays qui a toujours eu une grande importance géostratégique parce qu'il est à la jonction du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et c'est un des pays où, en effet, le Moyen-Orient et l'Afrique se rejoignent. Et c'est ce qui fait sa grande importance géostratégique, plus évidemment sa façade sur la mer Rouge.
En fait, il suffit de regarder une carte pour comprendre les intérêts des pays engagés dans ce conflit.
Oui, il va de soi, par exemple, que l'Égypte a toujours considéré que le Soudan était son arrière-cour et qu'elle avait une sorte de droit de regard ou d'intérêt majeur à ce que le gouvernement à Khartoum soit un gouvernement proche du Caire.
Et dans ces alliances et ces soutiens, vous l'évoquiez, Thierry Vercoulon, il y a un pays qui essaime de plus en plus en Afrique, notamment, c'est la Russie. C'est le cas au Soudan. Alors, il n'y a pas à proprement parler des militaires russes dans le pays, mais il y a des Russes avec des rebelles soudanais qui ont pour leur part été soutenus par le groupe paramilitaire russe Wagner.
Oui, tout à fait. Le groupe Wagner est arrivé au Soudan en 2017, à l'époque de Béchir, oui. Pour soutenir dans le cadre d'un accord qui avait une visée stratégique très claire pour Moscou, qui était de lui permettre d'avoir un accès à Port-Soudan pour sa marine, et donc d'avoir un point d'appui pour la marine russe sur la mer Rouge, puisque elle n'en a pas, alors que beaucoup d'autres marines en ont, mais à Djibouti. Et par conséquent, il y avait ce deal entre Khartoum et Moscou. Et après la chute du président Béchir, le groupe Wagner a réussi à rester dans le pays en se repositionnant surtout vers Hemeti, tout en continuant à entretenir des relations avec l'armée soudanaise, en jouant un peu sur les deux tableaux. Et puis depuis le début du conflit l'année dernière, par contre, le groupe Wagner, là, est clairement positionné du côté du général Hemeti. Au début du conflit en avril, le général Hemeti a rapidement appelé Prigogine, maintenant.
Qui est décédé en août dernier.
Voilà, pour lui demander...
Le patron des paramilitaires.
Voilà, pour lui demander notamment de l'armement antiaérien, puisque la supériorité, si je puis dire, de l'armée soudanaise à ce moment-là, c'était ses avions, alors que Hemeti n'en avait pas. Donc la Russie, via le groupe Wagner, l'a appuyé militairement et continue de l'appuyer militairement. Il y a toujours des éléments de Wagner qui sont du côté de Hemeti. Le grand changement, c'est que maintenant, il y a des Ukrainiens du côté d'Al-Burhan, de l'armée soudanaise. Depuis la fin de l'année dernière, on a vu apparaître un certain nombre de vidéos où il y a des Ukrainiens, qui sont probablement des éléments des forces spéciales ukrainiennes, qui ont fait des coups de main à Omdurman et à Khartoum. Et ça fait probablement suite à la rencontre qui a eu lieu entre le général Al-Burhan et Zelensky en septembre de l'année dernière.
L'intérêt pour les Russes, et notamment Wagner, d'être au Soudan, c'est le pétrole, c'est l'or, un peu comme ce qui se passe en Centrafrique.
C'est toujours le depuis 2017, si je puis dire, les mêmes intérêts. C'est-à-dire que, premièrement, essayer d'avoir un accès à la mer, d'obtenir un accès à la mer pour le Kremlin, quand il y aura un gouvernement qui prendra Khartoum. Et puis, évidemment, continuer la contrebande d'or. Puisqu'ils se sont greffés très rapidement quand ils sont arrivés au Soudan sur le système de contrebande d'or, et notamment via le général Hemeti, puisque il a fait quand même, il a bâti, si je puis dire, sa force militaire grâce à son contrôle sur la contrebande d'or des mines du Darfour. Et donc, c'est en quelque sorte un des grands trafiquants d'or du pays.
Chaque parti voit une opportunité de se financer en s'immisçant dans ce conflit.
Oui, évidemment, il y a des enjeux financiers importants. Comme on le disait, le Soudan est un grand pays. Il a des richesses minières et aurifères importantes.
Oui, le pétrole, la gomme arabique, les terres fertiles.
Alors,
l'or.
Le pétrole, pas encore, mais les minerais et notamment l'or, la gomme arabique, évidemment. Et puis, il y a aussi cette question de l'accès à la mer Rouge qui est assez stratégique pour certains acteurs.
Et cet accès à la base navale de Port-Soudan.
Voilà, exactement.
Voilà pour les acteurs internationaux, Thierry Vircoulon. Alors qu'en est-il à présent des acteurs sur le continent africain ? L'Union africaine a-t-elle eu sa voix au chapitre ? A-t-elle été écoutée ?
L'année dernière, il y a eu plusieurs tentatives de médiation par il y a eu l'Union africaine, il y a eu l'IGAD également. Il y a eu les États-Unis et l'Arabie saoudite qui ont tenu des discussions à Jeddah dès le début du conflit. Il y a eu aussi le groupe des États voisins, ce qu'on appelle le groupe des États voisins, qui s'est réuni à plusieurs reprises l'année dernière. Donc, il y a eu plusieurs initiatives de médiation et l'Union africaine a fait partie de ceux qui ont tenté de faire des médiations.
Médiation, ou du moins tentative de médiation, ça a commencé en mai 2023, vous le disiez, sous l'égide des États-Unis, de l'Arabie saoudite, qui eux ont un intérêt à la fin du conflit.
Oui, qui en tout cas ont poussé l'idée d'un cessez-le-feu et d'une trêve, idée qui a été rejetée par les belligérants.
Même question concernant l'IGAD, hein, l'autorité intergouvernementale pour le développement, vous l'évoquiez aussi, elle regroupe l'ensemble des pays de la Corne de l'Afrique. Il y a eu une médiation, pareil, ce fut un échec, même si officiellement cette médiation est encore en cours.
Oui, les médiations, elles sont jamais arrêtées parce que ça serait pas très de bonne politique, mais on sait bien qu'elles n'ont rien donné. Et en fait, toutes ces médiations ont été rejetées soit par l'un des belligérants, soit par l'autre au fur et à mesure. Les belligérants arguant toujours que les médiateurs étaient trop proches de l'autre camp. Etc. Là, il y a eu une tentative avant le Ramadan au niveau des Nations Unies de pousser l'idée d'une trêve pour le Ramadan qui a été écartée par l'armée soudanaise justement parce que elle s'était rééquipée et qu'elle a lancé une contre-offensive et donc elle a dit qu'elle n'allait pas remettre ses plans de côté à cause du Ramadan.
Alors si les deux belligérants n'arrivent pas à dialoguer, à ce qu'il y ait une médiation, est-ce qu'il faudrait peut-être compter sur les pays voisins pour créer cet accord de cessez-le-feu ?
Alors je crois qu'il faut quand même revenir un peu sur terre. C'est pas que les deux belligérants n'arrivent pas à dialoguer, c'est que les deux belligérants ne veulent pas dialoguer.
Oui.
La question c'est qui est-ce qui est en mesure de les forcer ? Pour le moment, personne. Voilà la situation, puisque, comme je disais, il y a eu trois médiations l'année dernière qui ont toutes été récusées par les belligérants. Donc, pour le moment, personne n'a les moyens de les forcer à négocier et ils sont dans une logique de lutte, de guerre de succession du président Béchir pour être celui qui aura le pouvoir, qui prendra le pouvoir.
Ils sont encore sur cette doctrine-là, une guerre de pouvoir.
Oui, bien sûr. Le but, c'est de prendre le pouvoir au Soudan. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la guerre a commencé à Khartoum, à la capitale. Hein. C'était ça l'enjeu immédiat. Celui qui prend la capitale étant celui qui est considéré comme tenant le pays, en quelque sorte. C'est ça l'enjeu pour eux. Et c'est assez existentiel parce que on voit difficilement, après tout ce qui s'est passé, comment ils pourraient s'entendre. Et puisque le point de départ événementiel de ce qui s'est passé, c'est que c'était un désaccord sur l'intégration de la force milicienne de Hemeti dans l'armée. Dans l'armée régulière, hein, c'est ça. Donc on voit difficilement comment cela pourrait être remis à l'agenda après les combats et les violences qui ont eu lieu.
Il y a plusieurs acteurs, on l'a compris, on les a évoqués, ce sera le mot de la fin, différents processus de paix ou de cessez-le-feu à minima, vous le disiez, qui ont échoué. Thierry Vircoulon, comment le Soudan peut s'en sortir ?
La meilleure façon, ça serait en effet de mettre fin au bal des hypocrites qu'on peut voir actuellement, et notamment à ces guerres secrètes par généraux soudanais interposés. C'est-à-dire qu'il faut analyser clairement quels sont les appuis qu'ils ont chez les uns et les autres dans les différentes puissances de la région pour les mettre en évidence et faire en sorte qu'il y ait une pression sur leurs protecteurs. pour justement qu'ils mettent un terme à ces guerres secrètes, parce que je pense que le Soudan est devenu assez largement actuellement une guerre secrète très moyen-orientale.
Réunir donc l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup Thierry Vircolon, coordinateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe de l'IFRI, de l'Institut français des relations internationales, également spécialiste du Soudan. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation des RFI.